au chapitre 17 et au verset 1er. Voilà, l'évangile de Jean, le chapitre 17 et le verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. » Voilà. Le passage que nous venons de lire est extrait de la dernière prière que Jésus a formulée en s'adressant à Dieu son Père avant d'être crucifié. Et si nous nous avions lu le chapitre 17 dans sa totalité, nous serions rendus compte que la prière de Jésus, elle a du poids. La prière de Jésus, elle est non seulement fervente, mais n'est-ce pas, ses demandes sont précises et puissantes. Et notamment dans cette prière, au verset 3, Jésus dit ceci, c'est fort important, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Alors je vous pose une question cet après-midi, connaissez-vous Dieu ? Connaissez-vous Dieu ? Ça n'est pas négligeable, cette affaire. Parce que l'Écriture nous dit, là, dans ce passage, que pour avoir la vie éternelle, pour aller au ciel, au paradis, quoi, eh bien, il faut connaître Dieu. Qu'est-ce que c'est que connaître Dieu ? Connaître Dieu, ce n'est pas seulement en avoir entendu parler, mais c'est entrer dans son intimité, avoir avec lui une relation authentique, voyez, il y a un homme dans la Bible dont l'Écriture nous dit qu'il fut appelé ami de Dieu. Il s'appelait Abraham, n'est-ce pas? Il avait une telle intimité, une telle proximité avec Dieu que l'Écriture l'appelle l'ami de Dieu. C'est quand même très particulier que d'être l'ami de Dieu. Pas seulement en avoir entendu parler, donc, mais le connaître. Un homme de la Bible, faisant part de l'expérience spirituelle qu'il avait vécue, disait ceci, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Voilà, ça c'était pour le passé. « Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Non pas qu'il ait vu Dieu d'une manière physique, n'est-ce pas, mais il est entré dans une nouvelle connaissance, une nouvelle perception, une nouvelle révélation de ta personne. Alors il disait à autrefois, auparavant, « J'avais entendu parler de toi. On m'avait parlé de Dieu, mais maintenant... » Maintenant, je le connais parce qu'il s'est révélé. C'est vrai qu'il est impossible de connaître Dieu réellement par nous-mêmes, par notre réflexion, par notre intelligence. Ce qui se trouve dans notre boîte crânienne, notre cerveau est bien trop limité, voyez, pour que nous puissions apprécier Dieu dans ce qu'il est, dans toute sa dimension. L'Écriture dit ceci, « Penses-tu parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Ça n'est pas possible. Les religieux, les philosophes, les moralistes, que sais-je encore, les grands penseurs, s'y sont essayés et ils ont échoué. Non, pour connaître Dieu, il faut que ce soit lui, dans sa grandeur, qui consente à venir vers nous pour se faire connaître. Il faut qu'il en prenne l'initiative, que lui se révèle, qu'il lève le voile, en quelque sorte, qu'il nous sépare de Dieu, qu'il nous ouvre les yeux et qu'il dissipe l'obscurité qui règne dans notre esprit humain. Alors, comment se révèle-t-il? Comment Dieu s'y prend-il pour se faire connaître à nous? Eh bien, tout d'abord, Dieu se révèle, Dieu se fait connaître aux êtres humains au travers de sa création. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er et au verset 19, voilà ce que la Bible déclare à ce sujet, n'est-ce pas ? Romains chapitre 1er, verset 19, il est dit les perfections, même verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est vrai que devant l'univers et ses merveilles, on ne peut pas manquer de s'interroger et de se dire s'il y a une si merveilleuse création, il y a forcément quelque part un créateur, n'est-ce pas ? Un créateur. Et c'est vrai que la nature, d'une certaine manière, nous parle de Dieu. Je crois que dans la région où nous nous trouvons, qui est magnifique, hein, les Savoyards seront contents comme ça, eh bien, on est gâtés pour assister, pour contempler les merveilles de Dieu. Lorsque nous sommes en présence de spectacles aussi magnifiques que, je ne sais pas, les sommets enneigés, le Mont Blanc et son glacier, les vallées, les monts, les rivières, eh bien, on peut être qu'émerveillé, se dire, mais forcément, c'est conforme au bon sens, à la simple logique, que de dire cette création merveilleuse, elle n'est pas surgie du hasard, mais elle est sortie des mains du Créateur, du Tout-Puissant. Et c'est vrai que l'Écriture dit que seul l'insensé, celui qui a perdu son bon sens, sa capacité de réflexion, n'est-ce pas, celui qui n'est plus saint d'esprit quelque part, seul l'insensé peut dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Non. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste la puissance de ses mains. Mais la connaissance de Dieu que l'on peut avoir au travers de la nature, qui est sa création, est toutefois limitée. La nature nous révèle d'une manière intuitive que Dieu existe, mais pour pouvoir prétendre connaître Dieu réellement, Ils font autre chose. Alors, si Dieu se révèle par sa création, c'est un premier point, Dieu se révèle aussi par sa parole. Et sa parole, c'est la Bible. Alléluia. Parce que la Bible, mes amis, n'est pas un livre ordinaire. Parfois, des gens m'ont dit, oui, mais la Bible, c'est un livre, c'est des hommes qui l'ont écrite. Oui, on peut même ajouter, ce sont des machines qui l'ont imprimée, n'est-ce pas ? Mais derrière ces hommes qui ont transcrit le texte biblique, eh bien, il y a l'Esprit de Dieu. L'Écriture nous dit que ces gens-là ont rédigé ce texte alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Et ce qu'ils ont consigné par écrit n'est pas simplement le résultat de leur élucubration, de leur pensée personnelle, mais le résultat d'une communication divine. De telle sorte que ce qu'ils nous ont transmis, c'est vraiment la parole de Dieu. Et Dieu se révèle par sa parole. Verset de la Bible dit ceci, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples, c'est-à-dire aux ignorants. » La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Voyons quelques aspects de la personnalité de Dieu très rapidement, que Dieu nous présente dans la Bible qui est sa parole. Un jour, un homme qui plus est, un grand monarque, Pharaon, roi d'Égypte, a posé cette question, qui est l'Éternel ? Qui est Dieu ? Et c'est là une question qui mérite que l'on s'y penche. Qui est Dieu ? Je dirais même, comment est Dieu ? Comment est Dieu ? Eh bien, la Bible nous dit par exemple que Dieu est saint. Voilà. Ça signifie qu'il est d'une pureté morale absolue. Le mal ne l'a jamais atteint, ne l'a jamais effleuré. Il est parfait. Fait. Dieu est saint. Dieu aussi est éternel, par définition. Un texte de l'Écriture dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Aussi loin que l'on remonte dans le temps en arrière, Dieu était déjà présent, n'est-ce pas ? Et aussi loin que l'on se projette dans l'avenir, Dieu sera toujours présent, parce qu'il est éternel. Il est éternel, il est aussi invisible, voyez ? L'éclat, le rayonnement de sa gloire est tellement intense que l'Écriture dit que l'homme, en tout cas dans son état actuel, ne peut voir Dieu et vivre. Il est tout puissant, il est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque l'ange est venu révéler à Marie, cette jeune fille, qu'elle allait être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, eh bien, elle s'est étonnée, elle a dit, mais comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais point d'homme, je n'ai pas de relation avec un homme. Et l'ange lui a dit, eh bien, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, telle sorte que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est un encouragement pour notre foi. Peut-être êtes-vous confronté à une impossibilité dans votre vie, peut-être dans votre santé, peut-être dans votre être moral, peut-être dans votre entourage familial, peut-être dans vos affaires, voire dans vos finances. Il y a des difficultés insurmontables, infranchissables qui se présentent à vous. Et vous dites, mais c'est pas possible que je m'en sors. Ah, comment ferais-je? Comment vraiment trouver la solution? La solution est en Dieu. Parce qu'il demeure le Tout-Puissant. Comment est Dieu? Il connaît toutes choses. On peut cacher à un homme, à une femme, même à un intime, ce que nous sommes réellement. Je me souviens de cette dame que nous connaissions, que nous avions à Avignon, dans l'église. Et voilà, elle avait vécu un drame familial. Je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est sordide. Et elle me disait, voyez, j'ai vécu avec cet homme 15 ans. Et finalement, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il était, au plus profond de lui-même. Et puis un jour, sa nature profonde, sa perversion s'est révélée, s'est éclatée, voyez. On peut tromper un homme, on peut tromper une femme. Mais Dieu connaît toutes choses. Il connaît nos erreurs, nos faillites, nos misères, nos souffrances secrètes. Oui, nos souffrances secrètes. Hein? Nos problèmes intérieurs. Il y a des choses que personne ne peut partager avec nous. L'âme humaine est insondable, mais Dieu la sonde. Et cet après-midi, Dieu vous connaît, non pas pour vous juger, non pas pour vous pointer du doigt, non pas pour vous accuser, non pas pour vous meurtrir, mais pour vous communiquer sa grâce, son amour, pour vous faire connaître que quelle que soit la mesure, l'ampleur de vos problèmes, il est, lui, à la hauteur de la situation, non seulement pour connaître le problème, mais pour y porter remède et solution. Comment est Dieu? Il est infiniment sage. Son intelligence, dit la Bible, n'a pas de limite. Il est encore présent en tout lieu et à tout instant. Un homme de l'Écriture dira, mais où irais-je? Loin de ton esprit. Où fuirais-je? Loin de ta face. Certains ont essayé, dans la Bible, de fuir loin de Dieu. C'est ridicule, c'est impossible, puisque Dieu est partout, hein. Tu peux aller à l'extrémité de la mer, tu peux aller au bout du monde, si tant est que le monde est un bout, puisqu'il est rond en fait. Mais Dieu te retrouvera toujours. Et puis, voyez, il y a un aspect réconfortant, rassurant. Si Dieu est partout, ça veut dire que je peux le rencontrer partout. Dieu ne se limite pas à un lieu particulier, une église, un temple, que sais-je, une cathédrale, une synagogue, une mosquée. Une salle évangélique, non! Il est présent partout. Tu peux le rencontrer chez toi, dans ta cuisine, ta salle à manger ou ta chambre. Hein? D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Et prie ton Père qui est où? Dans le ciel, bien sûr qu'il est dans le ciel. Mais qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est une découverte à faire, ça. De s'adresser à lui où que nous soyons, et de vérifier, de toucher du doigt le fait qu'il nous entend, où que nous soyons, quelle que soit notre condition, et il vient à notre secours. Il est souverain. Son autorité absolue s'étend sur toute chose. Il est juste, il est juste, il est juste. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Et puis, que vous dirais-je encore, il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il y a dans la parole de Dieu, dans la Bible, toute une série de promesses, plus merveilleuses les unes que les autres. Ces promesses sont fiables. Et nous pouvons être certaines qu'elles s'accompliront lorsque nous lui faisons confiance. Je pourrais mentionner bien d'autres aspects, voyez. La personnalité divine est tellement riche, tellement étendue que l'on ne finirait pas. Mais j'ai gardé, si je puis dire, le meilleur pour la fin. Pour vous dire que par-dessus tout, Dieu est amour. Dieu est amour. Non seulement il aime, mais il est amour. Sa nature profonde, c'est de nous aimer. C'est de s'intéresser à nous. Dieu est amour. Alors, voulez-vous connaître Dieu? Eh bien, c'est très simple. Lisez la Bible, mes amis. Et vous apprendrez au fur et à mesure que vous tournerez les pages de cet ouvrage sacré à le découvrir tel qu'il est vraiment, non pas tel que vous l'avez peut-être imaginé, tel que les hommes vous l'ont présenté. Vous savez, il y a souvent des extrêmes. Pour certains, Dieu, c'est le Père Fouettard qui nous poursuit de son regard inquisiteur et paf, qui nous cogne dessus à bras raccourcis. Et tous les petits malheurs ou les grands lui sont attribués en disant « c'est Dieu qui l'a fait ». Non, mes amis, il n'est pas le Père Fouettard. Mais il n'est pas aussi le papa gâteau, vous voyez, qui va tout accepter, tout tolérer, tellement gentil, tellement brave, comme on dit dans mon pays, qu'il va laisser faire. Non, non, et il n'est pas non plus lointain, inaccessible. Quelqu'un dans notre famille avait cette conception de Dieu, un Dieu créateur, certes, mais un Dieu qui, après avoir créé le monde et avoir créé l'homme sur la face de la terre, s'est désintéressé de la situation, en quelque sorte, et les bras croisés, et assiste au spectacle. Non, Dieu s'investit dans l'histoire humaine. Dieu vient à notre portée, à notre mesure, n'est-ce pas? Et oui, parce que, par-dessus tout, disons-le, il s'est révélé par son Fils Jésus-Christ. Par la création, qui nous donne un petit aspect de sa personnalité, sa puissance, sa capacité créatrice, se révèle par sa parole qui nous présente eh bien, ce qu'il est sur le plan de ses attributs, mais il se révèle aussi, surtout peut-être pourrions-nous dire, au travers de son Fils Jésus-Christ. Qui est Jésus? Jésus n'est pas simplement un prophète. Je discutais hier dans la vie, dans la rue, avec un jeune homme qui m'a dit « je suis mahométan, je suis musulman ». Alors, pour moi, Jésus est un prophète. Je lui dis, certes, il est un prophète, mais il est plus que cela. Il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Excusez-moi de préciser les choses, parce que pour un musulman, c'est choquant d'entendre cette formule, Jésus est le Fils de Dieu. Ça ne signifie pas, bien sûr, qu'il y a eu, là, une relation charnelle. Ce serait un blasphème que de prétendre ça. Quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est issu de Dieu, voyez. Il a la nature divine, de telle sorte que cet homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu parce qu'il est Dieu fait homme. Un Dieu qui, en quelque sorte, se dépouille d'une partie de sa gloire et vient partager avec nous notre condition humaine pour nous faire éprouver, connaître les sentiments, l'affection, l'amour, la tendresse, la compassion qu'il a en notre faveur. Jésus, c'est Dieu fait homme. Dieu fait homme. Un de ses disciples, qui n'avait pas compris grand-chose, ça lui a passé après, il a fait des progrès, lui a dit un jour, « Seigneur, montre-nous le Père !» Et cela nous suffit. Et Jésus a dit, « Comment, Philippe ? Ben, il y a si longtemps que je suis avec vous, 3 ans et demi que tu chemines à mes côtés, tu ne me connais pas encore. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ?» Et que le Père est en moi. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Il est venu nous révéler le cœur du Père. Il est venu spécialement pour nous prouver, pour nous démontrer, pour nous révéler l'amour de Dieu pour chacun de nous. Je vous ai dit, Dieu est amour. On peut toujours dire, je t'aime. Ça coûte pas cher, hein? D'ailleurs, c'est ce que font les chanteurs, vous avez remarqué? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hein? Il y a combien? 60 ans que Johnny Hallyday chante ça. Hein? Il a eu 5 ou 6 femmes. Il connaît quelque chose, le mot suivant? Rien du tout. C'est un slogan, ce sont des mots, ce sont des expressions. Mais Dieu, nous dit la Bible, a prouvé son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne se paye pas de mots, de belles phrases, de slogans. Non. De paroles vaines et creuses, il intervient au niveau de la réalité. Et nous citons, nous, chrétiens évangéliques, souvent ce verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'a-t-il fait ? Il a donné son Fils unique. » Voyez, l'amour, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est pas recevoir, c'est donner. Et c'est se donner. Un jour, un ami qui était chrétien a scandalisé un de ses camarade de travail. Cet homme se vantait d'aimer sa femme. Oh, il l'aimait, il l'aimait, il l'aimait. Alors devant tout le staff là, il a dit, c'est pas vrai, tu l'aimes pas, tu aimes le plaisir qu'elle te donne. Il a bondi l'autre, mais il a réfléchi aussi. Et quelques jours après, il est venu voir notre chrétien lui disant, tu sais, j'ai réfléchi ce que tu m'as dit. C'est vrai. C'est ça l'amour humain, souvent. C'est pas vrai? Je t'aime parce que je retire quelque chose de toi. Mais l'amour de Dieu de notre nature, ça n'est pas un amour qui revendique, qui exige. Mais c'est un amour qui donne et qui se donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans cet amour qui concerne l'humanité, tu as ta place. Jésus a donné sa vie, il est venu pour toi et pour moi. Voyez, cet amour l'a conduit à agir, tout d'abord, lorsqu'il était sur la terre, pour secourir ceux qui étaient dans le malheur, la souffrance, la détresse. La parole de Dieu, le livre des Actes, nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Et si autrefois Jésus parcourait la terre de Palestine, aujourd'hui il fait beaucoup plus encore. Il parcourt le monde entier par son esprit pour secourir les affligés. Encore aujourd'hui, disons-le, il guérit les malades. Alléluia. Et certains parmi nous ont expérimenté cette vérité. Il délivre les possédés. Il y a des gens, même en France, voyez, qui sont possédés du démon. Lorsque j'étais en Avignon pour servir le Seigneur, on avait une communauté de chrétiens qui venaient du Ghana. Et le dimanche soir, ils avaient leur réunion à l'africaine, vous voyez, sans chanter, sans danser, enfin bref. Et une fois par mois, j'allais y prêcher. Alors je leur disais, mais vous savez, mes amis, vous avez là-bas en Afrique vos sorciers, mais les Français aussi ont leurs sorciers. Alors ils étaient tout étonnés. Vous savez, le diable, il est international, hein. Et des gens qui sont dominés, asservis par la puissance démoniaque, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a partout ailleurs, il y en a en France. Et Jésus délivre les possédés, gloire à Dieu. Les gens qui sont tenus par la puissance des ténèbres, je me souviens de cette jeune femme en Avignon, tiens, justement, un dimanche matin, alors que le culte se déroulait normalement, rien de particulier, on chantait, on louait Dieu. Et tout à coup, là-bas, au fond de la salle, l'esprit mauvais qui avait pris possession de cette pauvre fille s'est manifesté. Elle a hurlé. On l'a entraînée dans une salle annexe. Et là, on a prié. Le démon a été chassé. Alléluia. Vous voyez ? Et quelques années plus tard, sa mère m'a dit, tout est entré dans l'ordre. Elle est aujourd'hui à Bruxelles, mariée, attachée à une église. Gloire à Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus rend courage et espoir aux désespérés. Gloire à Dieu. Il est l'avocat des causes désespérées. Hein? Quand il n'y a plus rien à faire. Quand on est au bout du rouleau. Quand on n'en peut plus. Quand il nous semble même parfois que la mort serait préférable à la vie. Jésus peut encore agir pour délivrer, secourir. Il console les affligés. C'était vrai autrefois. Ça l'est encore de nos jours et vous pouvez le vérifier, l'expérimenter. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Je te mets en quelque sorte avec respect, mais au défi. Regarde, ma vie est une catastrophe, une ruine. C'est l'échec complet. Seigneur, il paraît que tu fais quelque chose dans des cas comme ça. Fais-le pour moi, je t'en prie. Et vous verrez que le Seigneur est capable de rebâtir, comme c'est écrit, sur d'anciennes ruines. Alléluia. Il restaure, il transforme, voyez. La Bible nous dit qu'au début, au tout début de la création, la terre était informe et vide. Le texte littéral dit en hébreu, la terre était tohu et bohu. Voilà, c'était le chaos. Et puis, la parole de Dieu est intervenue. Dieu a parlé que la lumière soit, et la lumière fut. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, et par la parole créatrice et par l'action du Saint-Esprit, l'harmonie est venue au sein de ce chaos. Peut-être votre vie est un véritable chaos. C'est le tohu-bohu. C'est la panique. Excusez-moi l'expression, c'est la pagaille. Il y a de plus en plus de gens comme ça. Même les gens qui sont très BCBG, quand vous creusez un peu, Ils ont été mariés, divorcés, remariés. Il y a des enfants ici, ailleurs. On ne parle plus aujourd'hui de la famille, on parle du clan familial, vous savez. Voilà, c'est le chaos. Mais le Seigneur est capable de mettre l'harmonie là où le chaos a régné jusqu'à présent. Il le faisait. Il le fait encore aujourd'hui. Et puis, cet amour aussi, cet amour, eh bien, l'a conduit à s'offrir en sacrifice pour nous sauver. Nous, les humains, pécheurs que nous sommes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, sauver? C'est nous mettre en sécurité. Être sauvé, c'est être mis en sécurité. Tu te noies, on te jette une bouée de sauvetage. Ou bien le sauveteur vient à ta rescousse, il t'arrache au front tumultueux, il te remet en sûreté dans la barre, tu es sauvé. Tu es en un état de sécurité alors que tu étais dans un état de perdition virtuelle. C'est ce qu'il fait. Nous sommes en danger, vous êtes en danger. Parce que l'Écriture dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tiens, justement, pour revenir à ce jeune musulman que j'ai rencontré hier soir, il m'a marqué, vous voyez celui-là, hein. Il dit, mais quand vous allez mourir, où est-ce que vous allez? Ah, Inch'Allah. Dieu le sait. Je ne sais pas. Le ciel ou l'enfer, c'est lui qui décidera. Certes, c'est lui qui décidera. Mais il nous donne la possibilité d'être au clair, honnête sur la question. Celui qui est le Fils de Dieu, dit la Bible, il a la vie éternelle. Dieu a un projet pour vous. Il vous aime. Il veut vous sauver. Ce que Dieu veut, dit l'Écriture, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que vous soyez, vous, sauvés en particulier. Le projet de Dieu, le plan de Dieu, le programme de Dieu pour votre vie est formidable. Il veut vous bénir ici-bas et il veut vous accueillir un jour dans son royaume éternel. Et vous savez pour que cela arrive, quelque chose s'est produit. Oui, la croix du calvaire a été dressée et Christ est mort pour nos péchés. Pourquoi Christ est mort? Pourquoi cette démonstration de l'amour de Dieu? Pas simplement pour nous émoustiller. Vous savez, il y a des gens, ils regardent un crucifix et ils disent, le pauvre, oh, il a dû souffrir. Bien sûr qu'il a souffert. Mais la croix du calvaire, ce n'est pas un spectacle. La croix du calvaire, c'était une nécessité. Une nécessité. Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. Tout à l'heure, parmi les attributs divins que je vous ai rapidement présentés, j'ai dit que Dieu était juste. La justice, c'est de punir le coupable, oui ou non? Donc vous et moi, puisque nous sommes des pécheurs, on en convient, nous méritions la condamnation, coupables que nous sommes, la sanction divine. Dieu ne peut pas passer outre à cette règle, parce que s'il passait outre, il ne serait plus juste, il ne serait plus Dieu. Et la justice de Dieu s'appliquera toujours. Alors, pour réconcilier, si je puis dire, à la fois son amour, en même temps sa justice, Dieu a imaginé cette solution extrême. Faire porter les conséquences de notre péché à quelqu'un d'innocent qui allait payer pour les coupables que nous sommes. Ce quelqu'un, vous l'avez compris, c'est Jésus. Pour ça que la Bible dit, Christ est mort pour nos péchés, à cause de nos péchés. Pas les siens, il n'en avait pas, mais les nôtres. La sanction divine s'est appliquée. De telle sorte que maintenant, si je mets ma foi en Christ, et si tu fais de même, je serai sauvé, tu seras sauvé. Alléluia. Voilà mes amis, quelle est la manifestation de l'amour de Dieu, oui. Un prix a été payé à la croix pour que tu sois racheté de ton péché, pour que tu échappes à la condamnation, pour que cette condamnation que pourtant tu méritais te soit épargnée, pour que tu sois pardonné, pour que le projet de Dieu sur ta vie s'accomplisse, le bon projet de Dieu qui désire te sauver. Christ a dû mourir, une rançon, un prix a été versé. La Bible parle de la grâce de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, quand un cadeau est offert, le cadeau que je reçois, il est gratuit. Sinon, ça n'est plus un cadeau. Mais quand un cadeau est offert par ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui a payé le cadeau. Non pas celui qui le reçoit, mais celui qui l'offre. Eh bien, cet après-midi, le salut de Dieu le pardon des péchés, la vie éternelle. T'es offerte gratuitement, tu n'as rien à faire, quelqu'un a payé le prix pour toi. Christ a donné sa vie sur la croix du calvaire. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même en rançon pour tous. En rançon pour tous. Et ainsi tu connaîtras Dieu, si tu acceptes sa grâce, comme un enfant connaît son père. Et un jour, les portes du royaume céleste te seront ouvertes. Cela, voyez, Jésus l'a fait pour tous. Personne n'est exclu, même les plus pécheurs, même les plus mauvais parmi les hommes peuvent être sauvés. Il veut nous accorder à chacun d'entre nous une autre chance. Il s'intéresse même à ceux qui n'intéressent personne. Il y a des gens sur la terre, ils n'intéressent personne parce qu'ils ne sont pas intéressants. Mais Dieu s'intéresse à eux quand même. Alléluia. Même si tu as été rejeté, mis de côté, balayé, ignoré, méprisé, haï peut-être, trahi. Dieu veut t'accueillir parce qu'il t'aime et parce qu'il veut le meilleur pour toi. C'est pour ça que l'évangile est prêché. Alors, pour bénéficier de ce si grand salut, pour connaître Dieu ainsi, le connaître comme notre Père, notre Sauveur, il y a quelque chose à faire. Quoi ? Croire. Croire. Qu'est-ce que c'est que croire ? Croire, ça n'est pas un assentiment intellectuel. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe au niveau cérébral. Ce n'est pas interdit de réfléchir, de se servir de notre cervelle. Mais ça ne suffit pas. Vous savez, la Bible dit que les démons, on en parlait il y a un instant, ils croient aussi, hein, que Dieu existe. Les gens ne croient pas que le diable existe. Mais le diable qui existe sait que Dieu existe. Il croit à sa façon, si je puis dire. Mais il n'ira pas au ciel, bien au contraire. Alors croire, ce n'est pas simplement une adhésion intellectuelle. Voilà, ça marche votre truc, c'est rationnel, ok, d'accord, j'ai compris. Non, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'émotion, c'est une affaire intérieure. Ça te prend en tripes quelque part, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce que c'est croire? C'est s'en remettre à lui, c'est lui faire confiance. C'est plus encore lui donner notre vie comme lui a donné la sienne pour nous. Seigneur, je te choisis comme sauveur, comme maître. Comme Seigneur. Attention, il faut réfléchir avant de faire ce choix. Parce que choisir Jésus comme Sauveur, Maître et Seigneur, ça implique que désormais dans ta vie, il aura la primauté. Il sera le premier servi, le premier aimé et le premier obéi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier commandement. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est quoi aimer Dieu ? C'est lui obéir. Aimer Dieu, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ça croire. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Voilà, pour m'arracher à ma perdition. Tu as voulu prendre sur toi le fardeau de mon péché, la condamnation qui allait avec, pour que je sois épargné, pour que je sois pardonné, pour que je sois sauvé. Tu as fait ça pour moi. Je le crois. Et parce que je le crois, je vais plus loin encore. Tu as donné ta vie pour moi, je te donne la mienne. Et je veux m'engager avec ton aide dans une vie où désormais tu seras le premier honoré, je le répète, premier servi, premier aimé, premier obéi. Tu deviens en ce jour mon maître, mon Seigneur. Rassurez-vous, ça n'est pas un maître despotique. Ce n'est pas un maître d'esclaves qui manipule le fouet, la férule. Non, c'est un maître plein de bienveillance, n'est-ce pas? Son autorité n'est pas une autorité dominatrice qui écrase ceux qui sont sous son autorité. C'est une autorité libératrice. Si tu viens à lui, il va faire toutes choses nouvelles. Gloire à Dieu. Car l'Écriture dit que celui qui est en Christ, eh bien, il est devenu une nouvelle créature. Et pour lui, les choses du passé sont bien passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Une autorité qui a franchi, qui libère. Il y a des choses qui nous tiennent. Je me souviens de cet homme qui me disait, tenez, c'est pas grand-chose, le tabac. Et il a employé cette image, j'ai trouvé que c'était révélateur, il m'a dit, voyez, je suis comme un chien en laisse. Avec le tabac, avec la cigarette. Un chien en laisse. Surtout, vous savez, les laisses qui rallongent là aujourd'hui. Hein? Le petit chien, le petit cabot, il part, là, il a l'impression d'être libre, et puis le maître décide, clac, il appuie sur le bouton, oh! Il n'est pas si libre que ça, il est libre pour la longueur de la laisse, mais c'est tout. Et quand c'est le tabac, quand c'est l'alcool, quand c'est la drogue, quand c'est hein, une vie pervertie sur le sens sensuel, tu n'es pas libre, tu es esclave de tes sens. Mais si le Fils de Dieu, nous dit la Bible, vous affranchit, vous serez réellement libre. On nous claironne ce principe, ce slogan dans le monde, de toute manière. Liberté, liberté, liberté. Pas si libre que ça, si l'on y regarde de près. Seul Jésus donne la vraie liberté. Veux-tu l'accepter ce soir et le recevoir comme ton sauveur, ton maître, ton Seigneur ? À toi de répondre. Prions, s'il vous plaît.